Sur la planète, du Big Bang à la société de l'information, le rythme et la musique parcourent le temps et investissent l'espace sonore. Les collecteurs de sons, anthropologues modernes, tentent de comprendre le lien entre ce phénomène et l'humanité. Bernard Lomax et son équipe accueillent chaque soir de concert les invités qui devraient leur permettre de découvrir la vérité. Radio HDR et le 106 présentent Radio Lomax, l'émission du 106.
Bonjour tout le monde, bienvenue dans Radio Lomax, l'émission du 106, comme chaque lundi à 18h et chaque samedi à 10h pour la rediffusion, mais également sur la web radio du 106 en direct chaque soir de concert, radio.le106.com. Venez nous écouter en direct. Aujourd'hui au programme, les interviews du Super Omar, Biceps B et Skip the Use.
Radio Lomax, l'émission du 106.
On accueille le Super Omar, Julie, Christophe et Benoît, bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir.
On va refaire un peu l'histoire. Naissance en 2015 du Super Omar, à l'époque Christophe Vaillant qui est au centre et solo sur ce projet. Alors comment cette histoire commence? C'est seul dans son garage à écouter la bande son des années 60-70, le regard lointain, un brin nostalgique, la larme à l'œil.
Oui, si on veut. Ouais. En fait, c'est un départ contraint et forcé, je crois. En fait, je jouais dans un groupe qui s'appelait Pony Taylor. Avec Benoît d'ailleurs déjà. Et là, dans la dernière mouture de Pony Taylor, il s'est trouvé vers 2015 que tout le monde, enfin tous les membres du groupe ont eu des bébés en même temps. Toi aussi d'ailleurs.
C'est vrai.
Ouais, voilà. Et sauf moi. Et donc je me suis retrouvé un petit peu tout seul sans mes camarades de jeu. Et du coup, j'ai commencé à faire des morceaux un petit peu tout seul. À l'origine, sans vraiment de but particulier quoi. J'ai fait 8 petits morceaux, voilà. Puis je les ai fait écouter à Benoît à un moment. Il m'a dit « Ah, tu devrais continuer, c'est pas mal et tout ». Et donc j'ai fait chanter une copine anglaise qui s'appelait Pandora sur 4 morceaux sur les 8. Donc il y avait 4 instrumentaux, 4 morceaux chantés. Benoît a mixé ensuite le disque et on l'a envoyé à un label japonais. Parce que je voulais sortir un disque au Japon. Voilà, c'est une histoire un peu particulière. Et puis en fait, je crois que le label a signé dès le lendemain. Et en fait, le disque est sorti comme ça. Et après, de fil en aiguille, il est sorti en Angleterre, aux États-Unis. Puis après, il est sorti en France. Et quand il est sorti en France, on m'a demandé de faire des concerts. C'est là que le Super Omar est vraiment né, en fait.
Alors, on va revenir effectivement là-dessus. En 2016, c'est le label espagnol Elephant qui entre dans la danse et qui va...
Enfin, 2018.
2018.
Ouais,
et 2018 donc,
ouais.
Ah oui, 2018. Donc, ouais, ouais. En fait, c'est eux qui sortent dernièrement.
Voilà, le dernier album. C'est enfin, ça. Le premier vrai album. En fait.
C'est ça. Et donc, Julie arrive aussi également pour le chant à ce moment-là.
2016.
Elle arrive dès qu'on a commencé vraiment... les concerts, en fait...
Le groupe se forme officiellement en 2016 avec la sortie du premier mini-album de Christophe en solo. Quoi. Voilà.
Et comment est-ce qu'on explique justement qu'on commence par vous entendre et vous faites signer d'abord sur des labels étrangers, donc on l'a dit, japonais, mmh. anglais. Est-ce que ça vient des contacts que vous aviez justement avec le premier groupe?
Alors, pas avec ce groupe-là, mais c'est vrai qu'avec Pony Taylor, on avait une maison de disques en Espagne, mais on n'avait pas de label, on était en production, je crois. Par contre, j'ai joué dans des groupes dans le passé où j'avais été signé sur des labels étrangers. Et j'ai toujours été signé sur des labels étrangers, en fait, plus qu'en France, en fait. Et j'ai toujours vu la musique comme ça, en fait. Donc,
et pourquoi? C'est marrant parce que c'est un peu l'histoire de Talisco qu'on a eu tout à l'heure.
En fait, c'est une histoire d'époque aussi. Moi, j'ai commencé la musique au début des années 90, quand j'étais vraiment très, très jeune. Hein.
C'est vrai.
Et en fait, mon premier disque, j'ai sorti sur un label. Alors, j'ai fait 2 petits trucs en autoproduction, puis après, j'ai sorti sur un label anglais. Mais c'est de la musique vraiment de niche. À l'époque, je jouais dans des groupes Psyché, Mods, voilà. Et c'était que des labels anglais ou des labels américains ou des labels espagnols qui sortaient ça. En France, ça intéressait absolument personne. On jouait beaucoup à l'étranger, plus à l'étranger qu'en France d'ailleurs. Et avec ce groupe qui s'appelait The Strawberry Smell, on a signé sur un label américain en 2000. Et là, on est sorti au Japon, on est sorti en Australie, on est sorti dans plein de pays et on a signé sur plein de maisons de disques à l'étranger. Et il s'est passé plein de choses cool à l'époque, comme ça. Donc j'ai voulu recréer ça avec le Super Omar et c'est ce qui s'est passé. En fait.
Et du coup, le fait que vous soyez signé tout de suite au Japon, ça va provoquer des tournées, ça? Vous
allez... Non, pas vraiment. En fait, quand le disque est sorti au Japon, ça a intéressé des labels anglais, américains et après français. Mais on a vraiment fait des concerts à partir du moment où on a monté vraiment une formule live en France. Et principalement en France, on a fait quelques concerts en Suisse, mais on a joué vraiment qu'en France au début. Mais ça, c'était à l'époque du premier mini-album. Donc, c'était entre 2016 et 2017. Puis après, c'est allé un petit peu crescendo. Et quand on a fait le véritable premier album, donc avec Julie, qui était sur scène avec nous depuis un petit moment, mais qui, à ce coup-ci, chantait vraiment sur le disque, on a signé sur le label Elephant. Et c'est devenu, qui est un label international. Donc, le disque est sorti dans plein de pays à ce moment-là. Quoi.
Donc, début 2019, naît cet album intitulé Meadow Lane Park. Un titre très à l'américaine. Un peu, on se projette dans un quartier résidentiel américain en mode Desperate Housewives.
C'est un parc pour les enfants dans je ne sais plus quelle ville. Mais à Houston, je crois.
Ça tombe bien parce que l'autre image que j'avais, c'était d'adolescents seuls et incompris glissant sur leur planche à roulettes dans un film de Sofia Coppola.
C'est un parc pour faire jouer les enfants, en fait, le Meadow Lane Park. Ouais.
C'était Virgin Suicide, la référence au film que je voulais arriver. Playground Love, donc de R, c'est le premier morceau, votre premier morceau In The Park confirme cette impression R, cette ambiance couchée de soleil après une très chaude journée dans une banlieue américaine, de la classe moyenne un peu désœuvrée. Qu'est-ce qui vous parle dans cette ambiance-là à vous ?
Par rapport à R ou par rapport à
cette ambiance américaine générale, ouais.
C'est vrai que les influences de la musique, enfin, du Super Omar, je pense qu'elles sont plutôt anglaises. Même si j'aime beaucoup de choses américaines, mais c'est vrai que c'est plus moi ce qui m'a bercé vraiment, c'est plutôt la musique anglaise, voire le psychédélisme anglais, qui est beaucoup plus baroque que le psychédélisme. Enfin, c'est pas le psychédélisme à la Grateful Dead, ce genre de truc, quoi. C'est plus les trucs un petit peu baroques anglais de la fin des années 60 qui m'ont. D'où le fait que j'utilise beaucoup des cordes en fait dans les instruments. Dans les morceaux, quoi. Voilà.
Mais ça veut dire que R, par exemple, Métronomie, Phoenix, tout ça, c'est des groupes quand même qui sont qui vous parlent aussi, j'imagine.
Ah oui. Voilà. Mais après, c'est vrai que c'est des groupes que j'écoute, que j'aime beaucoup, mais c'est plus un cheminement commun, je vais dire, parce que on a dû écouter les mêmes choses, en fait. Je pense quand on était. Après, j'adore Métronomie. R, c'est une grosse influence. Je renie pas, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on a sûrement écouté les mêmes disques quand on était jeune aussi.
Alors il y a ce versant, et puis en fait en cherchant à faire d'autres liens, notamment Bertrand Burgala et son label Tricatel, je suis tombé sur la définition de l'easy listening qui naît dans les années 50 en Angleterre justement, et puis ensuite, alors c'est peut-être pas un hasard, et puis ensuite qui va évoluer, tendre vers le lounge, la musique électronique, la bossa nova, certaines musiques de films, et après R et Sofia Coppola, c'est John Barry qui s'est invité dans la réflexion. John Barry, c'est Out of Africa, les années 60-70, Cotton Club, Danse avec les loups, et c'est les BO de James Bond, et puis aussi ça. Là, on a reconnu, c'est amicalement vôtre. Et donc là, je me dis, c'est pas possible, il y a forcément un lien à faire avec le cinéma.
Ah oui, j'aimerais.
Non, mais c'est vrai, donc du coup, le cinéma.
C'est une grosse influence, les BO de films, tout ce qui est John Barry et Ennio Morricone, principalement, mais aussi François Droubet. On nous parle souvent de François Droubet, c'est vrai que j'ai beaucoup écouté François Droubet. Mais oui, ça fait partie. Créer des ambiances sur les morceaux, voilà. Créer vraiment des. C'est vraiment une musique qui est cinématographique. Chaque morceau a une ambiance, raconte une petite histoire.
Ouais, c'est ça, voilà. C'est ça.
Y compris les morceaux instrumentaux qui ne sont pas des morceaux pour remplir, au contraire, avec des. S'ils sont remplis de thèmes forts, d'arrangements,
chaque
morceau a un thème, une histoire, qu'ils soient instrumentales ou pas, et c'est des tableaux, des scénettes, c'est très cinématographique.
Si on ferme les yeux, je pense qu'on peut voir plein d'images qui rappellent les univers de... d'Amicalement Vôtre, par exemple.
Ouais, c'est ça. Et puis même des films des années 70. Alors, on pense aussi aux films de la Nouvelle Vague, un peu. Des choses plus populaires, comme les films de Pierre Richard, les BO de Vladimir Kosma aussi. Ça, ça colle,
bien
en fait.
Bien sûr.
Donc, il y a ce côté un petit peu arty, et puis ce côté très plus populaire, en fait, dans ces musiques-là, qui sont à l'intérieur
de
ces films.
D'ailleurs, le nom, le Super Omar, vient d'un film très populaire. Le nom du Super Omar, ça vient d'un film de Georges Lautner, des années 60. Avec Jean Lefebvre, Nino Ventura, qui s'appelle Ne nous fâchons pas. Et dans ce film qui s'appelle Ne nous fâchons pas, il y a une scène qui se passe dans un club qui s'appelle le Super Omar. Donc le nom vient de là.
Allez chercher.
C'est pas un nom pris au hasard, en fait.
Et il faut dire que dans votre bio, on cite aussi l'influence de Brian Wilson des Beach Boys, Broadcast, les High Lamas ou encore Burt Bacharach. j'ai pris cet extrait parce qu'il nous parle forcément beaucoup ici en France, puisque c'est une reprise de Sacha Distel, Toute la pluie tombe sur moi. On envoie forcément du love avec ces musiques-là, on a envie d'envoyer de l'amour, des bonnes vibrations, c'est aussi votre démarche un petit peu ou pas?
Oui, carrément. Ah,
complètement, c'est très sunshine, amour et cocktails.
Donc on a envie de se sentir bien, j'imagine que quand on fait cette musique-là aussi, on se sent bien, non?
Des fois, c'est dans la douleur. Oui, on sent bien. On prend beaucoup de plaisir. Déjà à la créer, à l'enregistrer et à la retranscrire sur scène.
Moi, je prends beaucoup de plaisir à la découvrir aussi, puisque je découvre les textes que je n'écris pas. Je découvre la musique quand Christophe m'envoie les démos et l'histoire. Et du coup, c'est le travail de l'interprétation. Là, c'est un peu comme un acteur qui va apprendre un rôle, quoi.
Et pas simple d'ailleurs de s'installer dans une musique où déjà il y a beaucoup d'images et d'installer un texte et une voix.
Complètement. C'est pour moi en tout cas, c'est la première fois, j'écris pour moi d'habitude et là c'était vraiment le premier travail qui était d'interpréter des textes qui n'étaient pas de moi, donc c'était il y avait du boulot et maintenant je suis beaucoup plus à l'aise qu'au début.
C'est très bien.
Et sur la production, alors comment on va chercher? C'est peut-être une question qui s'adresse.
Alors la production, c'est un travail vraiment commun avec Benoît.
Et comment on va chercher cette couleur-là avec certains claviers, des traitements de son particuliers, des instruments?
Ouais, il y a des instrumentations particulières, des sons, clavecins, des cordes.
Il y a des codes qui sont un peu communs un peu à tout l'univers, les clavecins, les synthés analogiques des années 60-70.
Il y a des sons de basse typés
aussi.
Voilà,
les sons de basse très, ce qu'on appelle le plonk, quoi, qui est très années 60-70 aussi. Et retranscrire ça le plus... sans vouloir tomber dans un passéisme, je pense que ça c'est plutôt le boulot de Benoît d'essayer de mixer ça de manière à ce que ça sonne pas comme des vieux trucs, de la copie de vieux trucs. Il y a des éléments très actuels en fait dans le Super Omar, des éléments d'un peu toutes les époques en fait. Il n'y a pas que du années 60-70, il y a déjà beaucoup de trucs des années 80, des sons. On essaie de mélanger tout ça et c'est là que c'est très important de travailler à deux, parce que si je le faisais pas tout seul, je pense que j'aurais peut-être une ouverture beaucoup moins grande sur plein de choses qui sont plus du domaine de Benoît.
C'est vrai que c'est bien aussi d'avoir de pouvoir transmettre le bébé à quelqu'un d'autre qui a peut-être un peu plus de recul. Et c'est vrai que j'arrive facilement à comprendre où veut en venir Christophe, et j'arrive un petit peu à trancher plus facilement que lui, je pense, sur des choix de mix. Et pour justement arriver à ne pas tomber dans le piège de faire la copie des influences, mais arriver à tomber sur quelque chose de plus moderne.
Ouais, avec de...
évidemment.
Avec de l'actu... Enfin, quelque chose d'actuel.
Voilà, de ne pas tomber dans le pastiche ou dans le revival total, comme ça peut se faire. Dans certains types de musique que j'aime beaucoup, mais des fois ça peut être super, mais c'était pas vraiment le but là, sur le coup c'était pas vraiment le
but. Oui, faudrait pas que ça reste trop musique de niche en fait, voilà, c'est surtout ça. Faudrait que ça touche le plus grand nombre comme...
Le but c'est que ça soit écoutée cette musique, même si c'est quand même très référencé. Je pense que ça je sais pas si on a réussi notre coup, parce que je sais pas, mais en tout cas on est content de ce qu'on a fait. Voilà.
Bon, et puis il y a toujours un petit côté Shabada Albada.
Michel
Legrand.
C'est voulu. Voulu.
Parfait. Ouais. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus nous voir. On a ces quelques questions. Vous serez sur la scène du 106 dans 23 minutes, très exactement.
Mais c'est parfait.
Il s'agit d'aller vous préparer.
Donc on sera en version light ce soir. Parce que normalement, on est 5 sur scène, on a basse batterie, là, on n'est que 3. Donc, c'est un concert un petit peu plus électronique que d'habitude, quand même.
Voilà. Parfait. Donc, on va danser, quoi qu'il arrive.
Ça va chalouper, forcément.
Ça va se frôler, ça va chalouper.
Couper, décaler, quoi.
On va créer des couples, peut-être, ce soir.
Les Super Omar. Merci beaucoup d'être venu.
Merci.
Radio Lomax.
Et on accueille le groupe qui va ouvrir la soirée ce soir, Biceps B. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Laurent Gruau, harmonica guitare, Évrard Moreau et Grégory Serrier. Évrard Moreau c'est à la guitare et Grégory Serrier batterie. Ils sont Biceps B avec un nom de groupe pareil. On annonce forcément un peu la couleur. Hein. Vous voulez du brutal, du testostéroné, du qui ne fait pas dans le détail. Qu'est-ce que vous voulez aller provoquer avec ce nom-là?
Ouais, c'est ça, bah, c'est une musique puissante, des riffs bien lourds à la Led Zeppelin. Voilà. Puis il y a le B aussi, qui, B pour blues. Mais voilà, c'est pas vraiment du blues. Il y a une couleur, il y a une teinte blues.
Un blues musclé, heavy.
Oui, voilà,
on dit.
C'est ça, ouais.
Profond. Groupe rouennais avec des havrais dedans, on peut dire ça. Il y a des petits bouts de havrais dans cette histoire, même si vous êtes tous basés sûrement aujourd'hui, tous les trois. Musiciens déjà repérés dans d'autres formations. Alors, Grégory Serrier, par exemple, dans un quintet jazz ou alors dans XO. Alors XO, un peu moins testostéroné, on va dire, plutôt folk. La dernière fois que nous nous sommes croisés, vous portiez aussi un projet associatif qui voulait se faire rencontrer les genres et les musiciens. Vous continuez un peu dans cette envie-là avec Biceps B aussi?
Ouais, bien sûr. Ouais, bah, c'est vrai que Biceps, pour moi, c'est l'occasion d'être un peu à la croisée des chemins avec toutes les influences que je peux avoir dans mon parcours de musicien. C'est vrai que les gens me connaissent surtout localement pour être un musicien de jazz ou de... Beaucoup moins de blues un peu musclé, quoi, c'est clair. Donc pour moi, c'est un peu...
Et le lien avec XO aussi, c'est que je crois que Sylvie Lacheret, avec qui vous composiez ce groupe, vous étiez deux, qui n'existe plus, XO ?
Si, ça existe toujours. Alors Sylvie, elle écrit pas mal de chansons en ce moment. On n'est pas très visible, mais le groupe existe toujours.
Mais Sylvie a joué un rôle dans Biceps.
Oui, effectivement. Sylvie, elle fait beaucoup d'enregistrements par ailleurs. Et du coup, elle a contribué à l'enregistrement des deux premiers titres de la démo de Biceps qu'on a fait à la maison. Parce que ça, c'est un peu notre marque de fabrique. On pousse les meubles à la maison, puis on monte la batterie dans le salon et puis on y va. Quoi.
On va reparler de cet endroit qui est en photo sur votre page de réseau social d'ailleurs. Donc Grégory, Évrard et Laurent, vous êtes aussi membres des Swink avec Gilles Adam.
Le jour de ma naissance, j'étais déjà mignon. À mon adolescence, je n'ai pas eu de bouton. J'ai toujours plu aux femmes sans même l'avoir cherché. Mais pour moi, c'est un drame. Je sais pas ce que c'est d'être laid.
Jeunesse dorée, donc des Swink. Les Swink, même chose, hein, c'est encore vivant, mais c'est un petit peu moins vaillant que ça ne l'a été, on va dire.
C'est-à-dire moins vaillant
C'est-à-dire qu'il y a moins de concerts, vous répétez moins, et vous êtes moins... Si, vous voyez encore beaucoup. Ça existe encore, les Swink, ça vit.
Non, en fait, c'est un groupe, on n'a plus d'activité en ce moment. Voilà, on a quand même on a prévu là en février deux petites dates pour se faire plaisir, voilà, en faisant un best-of de tous nos morceaux. Mais sinon, oui, à part ça, il y a plus d'activité. On a tous d'autres projets.
Mais vous êtes toujours un groupe vaillant, en fait.
Ah oui,
quoi qu'il arrive.
Pour
l'éternité.
Vous êtes également membre des Gypsy Pigs, fanfare officielle du Pigswana. Ça, c'est Scato. Donc là, c'est plutôt Laurent et Évrard hein, qui font partie.
Ouais,
vous, Grégory, vous ne faites pas partie de ce groupe-là. Pas encore,
pas
en tout
encore.
Cas. C'est une fanfare qui voyage beaucoup. Vous étiez au Canada il n'y a pas si longtemps que ça, si j'ai bien...
Oui, c'est ça, au Québec, l'année dernière.
Ouais.
Enfin, non, en juillet.
En juillet dernier.
Oui.
Donc, c'est pour le moment, pour le coup, c'est un vrai band, une vraie fanfare qui navigue entre quoi ? Entre la musique de la Nouvelle-Orléans et les musiques de l'Est, un peu qui...
Pas trop, c'est plutôt nos compositions influencées de plein de voyages qu'on fait, parce qu'on voyage beaucoup en Amérique latine, pays de l'Est, etc. Et du coup, on est quand même influencés par ces rencontres musicales, et donc c'est nos compositions. C'est une fanfare théâtralisée, donc ça a une autre dimension. Et uniquement acoustique. Du coup, moi je suis au banjo, Laurent est au trombone. Mais c'est quand même une fanfare avec une grosse énergie, quoi.
C'est peut-être la relation qu'on pourrait faire avec Biceps, du coup.
On n'a pas le son, on n'a pas le son de Biceps, mais l'énergie, c'est la même, quoi. On a envie d'y aller. Donc, du coup, dans les Gypsy Pigs, dans la fanfare, ça se voit plus au niveau scénique, où il y a beaucoup de mouvements. Bon, dans le son aussi, mais peut-être moins, parce que là, avec les guitares électriques, la batterie à fond, c'est pas pareil.
Il y a d'autres formations cachées encore ou
On travaille tous beaucoup. Voilà, ouais. Moi, je travaille beaucoup avec le théâtre, une compagnie rouennaise, la Spar Company, avec une autre compagnie, Amis de Fantomus, spécialisée dans les ciné-concerts. Donc, voilà, on travaille beaucoup, beaucoup tous. Et ça, on amène justement notre culture, nos influences dans ce trio. Et du coup, voilà, c'est un impact intéressant.
Et alors, on a fait déjà un petit peu un premier lien, mais est-ce qu'on peut faire un lien entre toutes ces formations, la fanfare, la chanson jazz manouche, le jazz, Biceps? Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme lien entre toutes ces formations?
Ah, bah, je sais pas, je pense que c'est... Moi, personnellement, j'en vois pas, à part l'envie. l'envie, quoi, c'est plus ça. C'est aussi des hasards. Par exemple, Biceps, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, ça faisait longtemps que je voulais faire un groupe de blues. C'est ce que je faisais comme musique au départ. Et donc, ça fait longtemps que je cherche des formules pour faire du blues, mais pas complètement blues classique, avec une petite note originale. Et voilà, donc je cherchais des morceaux dans mon coin. Et puis, comme on faisait souvent la route ensemble pour aller jouer avec Swank, je leur ai fait écouter des trucs. Et puis, ah ouais, bah oui, tiens. Et puis, bah voilà, c'est venu comme ça, naturellement. Voilà quoi, c'est...
Ouais, puis c'est un genre de retour aux racines aussi, parce que finalement...
tout vient du blues, comme dit.
J'aurais pas osé.
Non mais c'est vrai que moi, avant de vraiment me consacrer au jazz, j'ai malgré tout découvert la musique par le rock psyché des années 70, Jimi Hendrix, pas mal de bluesman aussi. Donc du coup, c'est une espèce de retour aux racines, en ce qui me concerne en tout cas, et puis... Et puis ça fait du bien de pouvoir lâcher un peu les chevaux sur la batterie sans qu'on me regarde avec des gros yeux.
C'est ça. Ben oui, parce que forcément, dans le jazz notamment, on est dans la retenue un peu, quelquefois, tout le temps. Mais...
Oui, c'est vrai, quand même, c'est pas la même énergie, clairement.
Là, on peut lâcher les chevaux, quoi.
Et donc,
qu'est-ce qu'elle vous procure, cette musique que vous n'aviez peut-être pas trouvée dans vos autres formations? Cette énergie-là, justement, on se lâche, on se donne corps et âme avec beaucoup d'énergie, plus qu'encore dans... Parce que dans une fanfare, par exemple, on en voit aussi, il faut donner beaucoup.
En fait, il y a peut-être autant d'énergie, mais là, ce qui est bien, c'est qu'il y a du gros son... On est encore plus dans le son. Voilà, c'est une composante importante.
Immergé dans le son, quoi.
Ouais, c'est une composante importante du groupe, d'avoir le son, quoi. Donc, on est...
On a une particularité aussi, c'est que on est tous les deux guitaristes et on avait envie de développer une idée où la basse est jouée simultanément avec notre guitare. J'ai un système qui me permet de jouer la guitare et la basse en même temps. Et on peut... Suivant le morceau et suivant les envies d'impro, etc., on peut s'échanger la basse. Donc voilà, il y a une complicité qui se crée par rapport à ça, c'est chouette. Et ça nous crée vraiment un univers à nous qu'on peut développer.
Et justement, le son, comment est-ce que vous avez travaillé ça d'une façon particulière pour choper ce son très heavy l'harmonica joue un rôle particulier forcément dans cette histoire-là, mais est-ce que justement on part de ça pour produire pour travailler son son, pour le trouver?
Moi personnellement, le son, il est venu de l'harmonica, c'est un son de blues. Avec ce son-là, je pourrais jouer du blues classique. Puis la guitare, un peu pareil. Voilà, il n'y a pas forcément une grosse recherche. Je pense que c'est plus un mélange. Alors, je sais pas, toi, Évrard, si tu as travaillé ton son dans ta chambre.
Moi, j'aime les les vieux amplis. Ça influence aussi le son. Et il y a quand même une contrainte technique musicale par rapport à ce qu'on propose avec ce système de basse, justement. On ne peut pas tout faire non plus, en fait. Ça induit quand même une histoire de riff, de
oui, l'écriture est très brute.
L'écriture est assez brute, en fait.
Et justement, le rôle de l'harmonica dans cette histoire, il joue quel rôle exactement? C'est un rôle de lead,
Oui, c'est plus un rôle de lead, tout à fait, ouais. Ou alors de contre-chant, réponse au chant. Mais oui, c'est plutôt rôle de leader. Après, ça dépend des moments. Évrard, il prend des solos. Bon, là, je suis en plus en accompagnement.
Alors, on est proche aussi d'un autre groupe rouennais, King Biscuit, qui est peut-être... je ne suis pas sûr qu'il y ait tout le temps de l'harmonica. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'il y ait de l'harmonica dans King Biscuit.
Je crois pas.
En tout cas, ils ont beaucoup travaillé, notamment le répertoire blues, vieux blues du Mississippi, les recherches d'Alan Lomax, etc. Ils ont beaucoup travaillé sur l'histoire de tout ça. Est-ce que vous avez eu envie de vous pencher là-dessus, ou est-ce que vous voulez avant tout que ce soit un truc qui sorte des tripes et...
Ouais, non, c'est plus ça. Hein. C'est un truc qui sort des tripes. Moi, quand j'écris les chansons, je me pose pas de questions, ça vient, soit ça vient pas, ou c'est pas terrible. Mais
on cherche pas forcément des vieux morceaux du répertoire.
Non,
on n'est pas dans l'exercice de style. D'autant que, enfin, les nouvelles compos, là, on va en jouer deux nouvelles ce soir, qui sont un peu inédites entre guillemets, même pour nous, parce qu'elles sont toutes fraîches.
Vous les connaissez pas du tout.
On va essayer de s'en rappeler. Mais il y a une couleur un peu plus rock, garage, quoi, pour le coup, un peu plus punk presque, j'ai envie de dire.
Ouais, à certains moments, ouais.
C'est vrai qu'il y a une couleur blues du fait de l'harmonica, mais on n'est pas un groupe de répertoire de blues, c'est pas un exercice de style, quoi, clairement. Ne serait-ce que parce que notre config, elle est un peu atypique aussi, et qu'elle correspond pas spécialement au config de groupe de blues pur et dur, quoi.
Oui, le blues dans Biceps B, c'est plus le son, hein, pas forcément l'écriture. Quoique, on retrouve quand même, comme on est sur des gammes qui sont simplifiées, du coup, on va retrouver ça un peu, mais sinon, c'est quand même beaucoup plus rock.
Un aspect brut, peut-être aussi, du blues, rugueux aussi, quoi, qui va chercher loin les choses. Quoi. Juste alors, quel est cet endroit qu'on voit en photo sur, où j'ai l'impression que vous répétez, qui a l'air d'être un grand endroit perdu dans la campagne, dans une vieille maison.
On pourrait imaginer que c'est ça. Ouais. On peut pas en dire plus.
C'est un hôpital psychiatrique.
Est-ce que tu as reconnu ce lieu?
Non.
Non.
Bah, il y a un côté, loft un peu indus. Mais ce lieu, alors pour la petite histoire, n'existe plus aujourd'hui. Il a été détruit.
Ah.
Et c'était un lieu qui. C'était un lieu de résidence qui jouxtait l'Être Saint-Maclou. Dans lequel, à l'heure actuelle, il y a des travaux. Et le lieu dans lequel on a fait ce clip et on a fait les photos. Alors, je parle du clip d'ailleurs qui n'est pas encore sorti parce que c'est un peu un clip inédit en l'occurrence. Mais le petit teaser qui est sur notre chaîne YouTube, filmé en Super 8, a été tourné aussi dans ce lieu.
Là où se trouvait l'école des Beaux-Arts.
Ouais, c'est ça. C'était une annexe. Et voilà, en fait, on avait eu accès à ce lieu grâce à la ville de Rouen qui nous avait cordialement laissé.
Ah oui, donc il y a les âmes de ce lieu qui peut-être ont hanté un peu vos.
Ouais, c'est vrai que c'est marrant parce que pour le coup, ce lieu-là n'existe plus.
Était super.
Ouais.
Oui, puis c'est vraiment un lieu historique, chargé,
l'histoire. Qui collait bien à l'esthétique de la musique. Et puis,
Très bien. Merci, messieurs.
Merci.
Biceps
B,
ce soir, qui va envoyer le bois sur la scène du 106 à partir de 20h30. Allez vous préparer. qu'on accueille Skip the Use. Bonsoir à Mathieu, Matt Bastard, Yann, Stéphanie. Bonsoir à tous les deux.
Salut.
Salut.
Merci d'être là. Quatrième date de la tournée, c'est complet ce soir. Julie est avec moi pour cette interview. Julie qui officie de temps en temps derrière le bar, vous la verrez ce soir d'ailleurs, mais aussi comme blogueuse et youtubeuse, Mademoiselle Gloomy, la chaîne, c'est La Gloom sur YouTube. Salut à toi.
Merci Manu, salut.
Et on te retrouve dans quelques instants avec tes questions. On va juste refaire un peu l'histoire avant. Skip the Use, né en 2008, c'est un groupe qui naît sur le centre d'un groupe de punk, Carving. 10 ans d'existence pour Carving, aux côtés de Uncommon Men from Mars ou Burning Heads par exemple. Vous avez fait partie de cette scène-là. Comment est-ce que vous avez vécu ces 10 années et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de cette période punk de 10 ans?
C'est plus que 10 ans en fait, parce qu'on a commencé en 93 et on a dû arrêter en...
Vous étiez tous les deux dans le groupe déjà?
Moi je suis arrivé plus tard.
Mais dans Carving aussi?
Ouais.
D'accord.
On a dû arrêter en 2006,
5. Ah ouais, ouais,
2006, donc tu vois, ça fait...
Plus de 10 ans.
Ah ouais, ça fait... ouais. Bon bref, faut pas compter. Mais non, c'était... bah écoute, nous on a appris notre job avec ça. Clairement, on a appris à tenir une scène, on a fait nos premiers concerts, on a fait de la merde, on a fait des trucs super cool, on a appris notre métier, enfin si à l'époque c'était pas notre métier d'ailleurs, mais voilà, on s'est surtout bien marré avec des potes et c'est cool, enfin on a eu la chance de bouger un peu, de faire des albums, de se retrouver confronté à des gens et d'essayer de grandir avec la musique. Et ça,
ça a fonctionné. Il y a quelques vidéos encore qui traînent. On est encore dans une forme de rébellion avec Skip the Use, celle que vous portiez aussi à cette époque-là. Bon, j'imagine que les choses ont évolué. Mais
On n'a jamais trop été dans une forme de rébellion. Non. Nous, on a toujours été plutôt, je pense... essayer de fédérer les gens autour de essayer de mettre le projecteur sur des choses et de citer la prise de position chez l'auditeur ou celui qui regarde le concert. Après, c'est pas un délire adolescent ou un truc comme ça. C'est plutôt une réflexion philosophique sur les choses. Est-ce que le monde dans lequel j'évolue, c'est le monde dans lequel j'ai envie de le regarder tourner, les bras ballants, ou alors j'ai envie d'être acteur? Après, je pense que quel que soit le niveau d'acte, le fait, c'est d'essayer de faire quelque chose. Et nous, bah, notre petit niveau, on a essayé de faire des trucs. Et ça s'est beaucoup plus passé par les concerts, par se marrer, par faire les cons des fois. Et puis surtout, à rester ensemble. Et toujours ensemble 20 ans après.
Rapidement, vous faites des premières parties de Rage Against the Machine ou de Trust. Premier album en 2009, Skip the Use. Les concerts vont s'enchaîner quasiment non-stop. En 2012, sort Can't Be Late avec ce tube. Voilà ce morceau que tout le monde connaît. Un an plus tard, victoire de la musique dans la catégorie album rock en 2 ans, 350 dates. Le marathon continue. Hier, on parlait avec Talisco de cette tornade que peut être une vie sur la route, plusieurs années de suite. Ça vous a pas un peu usé tout ça, justement au moment en plus où ça a fonctionné super fort sur ce morceau-là notamment et sur cet album-là, quand ça a démarré à fond les ballons et que là on se dit faut y aller quoi.
Bah, il faut y aller, ouais. Après, nous on kiffe tellement la scène que usé, on va pas dire que ça nous a usé. Des fois, ouais, quand tu rentres chez toi, c'est un peu complexe quoi. Mais on a kiffé réellement faire ça. On n'a jamais été usé vraiment par les concerts. On a tout le temps voulu en faire plus et aller plus loin aussi.
Plus loin, c'est-à-dire élargir géographiquement les choses. Quoi. La route se poursuit. En 2014, sort Little Armageddon, entièrement écrit par Matt. Et puis la séparation en 2016. Vous êtes dans quel état d'esprit à ce moment-là, en 2016, quand ça s'arrête?
Moi, on a toujours écrit à deux. En fait, c'est vrai que les gens, ils se perdent un peu de comment ça marche chez nous. En fait, c'est super simple. On fait la musique tous les deux et puis moi, je fais les paroles en plus. Et depuis le départ, alors du coup, j'ai oublié ta question.
La question, c'est dans quel état d'esprit vous êtes en 2016 quand tout s'arrête?
On sait aussi pourquoi on s'arrête. On a besoin d'avancer aussi chacun de notre côté personnellement, que ce soit dans la production ou autre. On a vraiment énormément d'envie aussi. Et on sait très bien qu'avec Skip the Use, quand tu fais 350 dates en 2 ans, ben, faire quelque chose à côté, c'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais tu le fais pas bien. Donc on avait besoin d'un temps où on pouvait... faire ce qu'on avait envie de faire. Moi, j'ai monté mon label, j'ai monté ma société d'édition, j'ai monté plein de trucs qui me faisaient grave, qui me font encore grave kiffer parce que c'est tout le temps en activité, quoi. Donc, voilà, on savait pourquoi on s'arrêtait les mains.
Mais qu'est-ce que ça vous a apporté de travailler sur vos carrières solo ? Parce que toi, t'as fait Zone of Face.
Ouais.
Après, toi, Matt, t'as fait ton album solo qui s'appelle Louvre. Qu'est-ce que vous a apporté personnellement de travailler chacun de votre côté
et de mener un projet certainement de A à Z, on l'a fait chacun de notre côté. Et c'était les prémices de ce nouvel album en fait.
Ouais.
Donc travailler sur l'image, moi je kiffais les masques et du coup on s'est retrouvé avec un masque dans Zone of Face.
C'était, ouais.
Voilà, c'était faire voilà, un projet de A à Z, enregistrer, je l'ai enregistré dans mon studio. Mixé, masterisé, etc. Enfin, c'est des trucs de Zikos aussi en même temps. Et voilà, retrouver un peu l'indépendance aussi d'une certaine manière. Parce qu'on l'est tout le temps en fait. On kiffe ça aussi. Donc faire les choses et aller le plus loin possible. Ça nous a appris énormément de choses. Enfin, Matt a plein d'autres choses aussi.
Ouais, après, le deuxième album, on était en Angleterre. C'était super, enfin, vraiment on a vécu une expérience géniale, on était dans un studio de ouf, avec des gens formidables et tout, enfin, c'était pas le souci. Mais on s'est dit, je me souviens, le soir on rentrait dans notre petit appart à Londres là, et on se disait, putain, ce serait chouette qu'un jour on arrive à mener un disque à deux, de A à Z. Et force est de constater qu'à ce moment-là, du moins, on n'était pas capable. Au bout d'un moment, on n'avait pas la capacité technique, on n'avait pas forcément l'expérience, enfin... d'y arriver. Donc on s'est dit, ben, il faut qu'on prenne le temps d'acquérir cette expérience. Donc après, comme il l'a dit, il y a eu la volonté, puis de développer aussi, titiller notre créativité, à essayer de faire des choses différentes. Moi, ça a été vraiment faire de la production et de la réal, parce que c'est un truc vraiment qui me branchait. Aller aux États-Unis, travailler avec des producteurs que je kiffais vraiment, aux États-Unis et dans d'autres pays, et faire du ciné, enfin, travailler sur d'autres choses en fait, et tout en gardant un œil sur le projet et en se disant voilà, quand on sera prêt à le faire comme ça, on se retrouvera et on le fera comme ça. De toute façon, on voulait pas faire ce quatrième album si c'était pas comme ça. Donc à un moment, on s'est retrouvé il y a, je sais pas, 2 ans, et on s'est dit voilà, je pense que là on est prêt à le faire comme ça, et puis on s'est mis au boulot et effectivement on a pu le faire comme ça. Donc pour nous, c'était seulement ça qui comptait. Maintenant, c'était pas un break, c'était pas une partie de plaisir, parce qu'on a beaucoup travaillé pour en arriver là, et on a bouffé de la vache enragée. On est sorti de notre zone de confort pour justement se bousculer. Et c'est vachement plus difficile de le faire quand t'es au top de quelque chose que quand ça marche pas et que tu dois trouver une autre solution. Nous, tout marchait bien pour nous. C'est juste qu'on avait vraiment envie d'aller plus loin et que c'était nécessaire.
Et ça fait quoi d'être passé indépendant et d'être sorti d'une grande majeure ? Qu'est-ce que ça vous a...
Lui, il était encore avec Universal tout de même.
Ouais, moi j'étais en licence Universal, j'ai jamais...
T'as jamais bougé ?
Je suis toujours resté sur Universal, après j'étais en licence, après bon, les gens peut-être qu'ils voient pas trop la différence entre les contrats d'artiste licence, mais
oui,
j'étais coproducteur de mon disque,
ouais.
Donc en fait tu passes aussi de l'autre côté de la barrière. Clairement, ce que ça fait comprendre aussi qu'est-ce que c'est que ce job. Moi, en ce qui me concerne, j'étais tout seul, j'avais monté ma petite structure, j'ai sorti mon disque solo, le disque de ma meuf, hein, je veux dire, j'ai une toute petite structure, et rien qu'en faisant ça, je me suis rendu compte de la quantité de travail, et qu'en étant tout seul à gérer ça, c'était vraiment compliqué. À la différence de Yann, où lui, il a un label, où ils sont plusieurs et tout, etc. Et je pense que, comme tu vois, autant le label de Yann, Vanny, mais aussi, on était il y a quelques jours avec Last Train, qui eux aussi ont leur label, mais qui sont si permanents pour bosser sur leur label. Là, dans ce cadre-là, ouais, c'est ultra cool, parce que tu peux je pense que tout le boulot qu'on a fait dans le disque, comme on parlait, d'aller au bout des choses, de le réaliser nous-mêmes, de le produire nous-mêmes, bah, tu peux aller dans la manière dont tu le distribues, dans la manière dont tu fais tes clips, dans la manière dont tu tournes. C'est génial, tu vois. Bon, nous, on a déjà fait le disque.
Voilà. Et comment ça s'est passé, la production de l'album ? Qui a fait quoi, tu vois, des titres à la mélodie, au compo, jusqu'au choix de la photo, de la pochette.
En fait, les morceaux, ça part d'une base, soit de Matt ou de moi, qu'on se redistribue, qu'on échange, et on avance sur le morceau vraiment comme ça. Au début, on était dans une petite chambre chez moi à Lille, là, dans la même pièce, un petit 15 mètres carrés, à travailler chacun sur notre ordi. Et moi, des fois, je l'entendais chanter un peu trop fort, donc j'étais obligé de passer au casque et tout. On s'est battu un petit peu là-dedans. Et voilà, ça a commencé comme ça, simplement comme le premier album aussi, ou comme vraiment le premier album de Skip aussi. Quoi.
Okay.
Exactement de la même manière.
Après, en studio, on a bossé au Hangar à Son à Cambrai avec Bertrand Charlet. Après, on avait en fait le studio, on l'avait pour nous. Donc, du coup, ce qui était cool, c'est qu'on avait un endroit du studio où ils bossaient eux à trois, Nelson, Enzo et Yann. Ils bossaient en groupe, tu vois, pour vraiment donner une vie de groupe aux morceaux. Et puis, moi, j'étais plus du côté technique avec Bertrand. Faire le côté technique de réalisation du disque et voilà, donc en tout cas c'est le premier disque qu'on réalise aussi avec les musiciens qui nous accompagnent à live. D'habitude on était que tous les deux. D'accord. Dans les disques là, donc déjà on a pu déjà bosser la cohésion pendant 6 mois de production
et tout se passe bien pour l'instant.
Génial, mais c'est aussi parce que on est géniaux.
Non, franchement, non, c'est vraiment cool. La tournée, elle est vraiment belle, et donc c'est vraiment de bons moments. Et puis on a commencé par les festoches aussi.
Ouais.
Donc tu vois, donc, nous on a tout fait à l'envers, quoi. Comme d'hab.
Mais c'était bien, c'est quand même bien.
À fond, bien sûr.
C'est important pour les festoches.
Super bien, grave de ouf. On était super heureux, on voulait recommencer par les concerts Clermont pour se mettre aussi dans l'album au final.
Ok. Et moi je voulais aussi parler un peu de vos influences musicales, parce que donc, j'ai écouté votre album quand même, plein de fois.
J'espère bien.
Bah, ouais, je l'ai écouté Mathieu, tu m'as pris pour qui? Et donc il y a le titre Get Papers, je trouve que c'est un peu quand même, un peu funky.
Un petit peu.
Et le titre Toxic Affair, moi il m'a fait penser un peu au... au hip-hop du groupe 21 Pilots.
Si d'accord, vous moi aussi si on voit bien.
Donc du coup, je voulais savoir un peu quelles étaient vos influences musicales, tout ça, parce qu'il y a quand même des touches qui sont quand même loin du rock. Et,
À fond, déjà, il y a des trucs qu'on aime bien, des groupes actuels comme 21 Pilots, comme tu dis, mais surtout même au niveau de la prod. Et c'est des trucs qu'on kiffe et qu'on retransmet aussi dans nos morceaux, donc c'est peut-être un peu ça aussi le côté Toxic Affair. Et après, comme sur tous les morceaux, je pense que ça reflète bien un peu ce qu'on écoute, c'est-à-dire tout. Et pour nous, c'était important d'aller le plus loin possible. Tu vois, Gate Papers, quand tu dis qu'il est funky, ben clairement, parce qu'on kiffe tellement ça. Et ça fait tellement plaisir aussi de le jouer sur scène, on verra tout à l'heure, mais c'est un pur kiff. Donc. Nos influences, elles sont très très larges.
Ouais, franchement, du rock au métal, en passant par le hip-hop. Moi, je suis un peu dégoûté parce que j'écoute pratiquement que de la techno. On n'a pas fait de chansons de techno.
TNT, t'as écouté de la techno, toi ?
Ouais, tu vois, la techno, c'est pas la tête des gens. Regarde Carl Cox. Il a une tête clair. À faire de la techno. Il a la même tête que toi.
Calme-toi, putain.
Non, mais vraiment, en plus, c'est mais bon, voilà, en tout cas, blague à part, oui, on est assez open, musicalement parlant, c'est sûr.
Et comment vous voyez un peu, parce que là, tu vois, ce qui marche en ce moment, on va pas se mentir, c'est un peu le rap, tous les petits bibous à l'homme pâle, gringe, val et tout.
Ouais.
Et comment vous pensez réussir à être un peu plus bankable que ce registre-là ? Enfin, qu'est-ce que vous pensez déjà de l'émergence du rap, là, qui arrive, alors que pendant des années, ça a été carrément un peu mis de côté
Ouais, ben je pense que déjà le public il a énormément évolué de ouf par rapport à ce qu'il écoute, notamment au niveau de la jeunesse et tout. T'as pas mal de. Enfin, moi je suis allé voir Orelsan, je suis allé voir Lumpal, ouais. je kiffe ça aussi.
Ouais, ouais.
Et donc tu te retrouves dans des salles où il y a une moyenne d'âge, je sais pas, ouais, c'est autour de 18, ouais, voire des fois moins.
15-20 ans. Ouais.
Voilà. Et donc, c'est, je pense, un autre trip, clairement. Je pense que le streaming aussi, la musique qui est écoutée en streaming, ben, c'est quoi ? C'est l'urbain, clairement, parce que c'est plein de jeunes. Parce que je pense qu'il y a plein de gens, Spotify ou Deezer, s'ils écoutent, mais pas comme les jeunes qui écoutent ça toute la journée. Donc ouais, c'est une évolution. Et après, nous, on kiffe ça. Ça fait partie de notre culture aussi. Et tant mieux que ça remplit du zénith. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses maintenant valides dans les zéniths. Et ouais. Il y a moins de, au final de trucs de variété. C'est la nouvelle variété vraiment en fait. Au final,
ouais, comme Impact. Où est-ce que tu veux dire ouais.
Après, ça correspond aussi à sociologiquement à une époque. C'est une musique pleine d'attitudes, etc., bah, pleine d'images. Et aujourd'hui, on est dans une société où c'est que ça, avec les réseaux sociaux, tout le monde va avoir une attitude, tout le monde va ressembler à quelque chose. Est-ce que ce dont à quoi on ressemble, c'est vraiment soi ? Après, c'est une autre question, tu vois. Et donc, du coup, toutes ces musiques-là, elles forcément, aujourd'hui, ça cartonne.
Ouais.
Maintenant, moi, je pense que le rock, il a vraiment encore... Son existence et son mot à dire, mais carrément, déjà parce qu'on a un mot à dire. C'est ça, je pense que faire du rock, c'est être en dehors de la ligne jaune.
Ouais,
et qu'aujourd'hui, on peut faire des chansons sur le lifestyle, sur ceci, comme un peu de la télé-réalité musicale, tu vois, on peut le faire. Et après, on peut aussi mettre des coups de pied dans la merde, quitte à en avoir plein la gueule. Et ça, je pense qu'au niveau du rock'n'roll, on est encore. Voilà, c'est encore un truc qui nous concerne. Et même si. Et c'est hyper drôle parce que, comme tu l'as dit, maintenant, comme le rap, c'est vraiment devenu quelque chose de plus variété, plus chanson. La frontière, elle est beaucoup plus mince. C'est plus NTM, quoi.
Tu vois, ouais, c'est clair.
Et finalement, NTM, c'était hyper rock'n'roll comme groupe de rap. Bah, nous, on est aussi de cette génération-là. Donc, c'est bien aussi que les choses s'équilibrent. Et je trouvais ça naze il y a 10 ans. Qu'on fasse des zéniths avec Chaka Ponk et puis que les groupes de rap n'avaient pas le droit à ça. Je trouve que c'est un déséquilibre tout aussi naze. Aujourd'hui, je trouve ça pas cool que des groupes de rock aient du mal des fois à se placer dans certains festivals parce qu'on va placer
radios,
que de l'urbain ou même sur les radios.
Ouais.
Tu vois, je trouve que c'est un équilibre. Les deux vivent ensemble. Mais voilà, c'est comme ça.
Et vous pourriez faire un featuring avec genre, un artiste du moment de ce domaine musical-là ?
Mais bien sûr, on pourrait
genre
faire...
Avec qui, ça vous ferait kiffer de faire un featuring ?
Bah, tu sais, bah déjà, il y en a un, enfin historiquement, même pour Skip, c'est Orelsan. On a déjà fait pas mal de choses avec lui, parce que, ben voilà, on le kiffait, on le kiffe depuis bien longtemps.
C'est un vieux.
Après...
Nekfeu, le Lumpal, ouais, tu vois, il y a plein de mecs.
Après, moi, j'aimerais bien faire un truc avec Lil Nas, l'américain.
Lil Nas ?
Bah oui, je trouve qu'il est trop cool ce boy, trop bien. Donc,
il est trop mignon.
Ouais, il est super mignon, c'est vrai.
Et toi, Matt ?
Ok, les gars.
Non, mais ça va.
Mais non, mais moi... Moi, je voulais faire un feat avec Angèle et faire Balance ton quoi en punk rock.
Un feat avec Angèle ?
Ouais.
Sérieusement ?
Ouais, bien sûr.
Oh, vas-y.
Si, moi, je trouve ça
qui
cool. Parce que tu vois, c'est ça l'irrévérence. C'est ça l'irrévérence. Moi, je pense que vraiment, c'est ça l'irrévérence. Moi, je serais super heureux d'aller jouer chez Michel Drucker et de faire du rock'n'roll là-bas. Parce que je pense que c'est encore des histoires de posture. C'est pour ça qu'on n'aura jamais Gojira sur la 1. Qu'on sera là-dedans, tant qu'on sera de moi je fais ça, je vais pas avec ci et je vais pas jouer là, tu vois. Et c'est, par exemple, c'est un truc qui est très très différent des États-Unis où tu vois Metallica qui font un truc avec Snoop Dogg et c'est cool, tu vois, et personne se dit oh c'est bizarre. Donc ouais, faisons un truc avec Angèle, mais faisons un truc bien.
Tu veux faire un featuring La Rousseau et Biwil là ?
Mais peut-être. Et je m'en fous. Tant que tu fais un truc bien.
Rousseau.
Tant que tu fais un truc bien.
Tu sors un de ces trucs, tout le monde aussi.
Pas sur YouTube, là, tu verras. C'est une charmante vidéo, ça.
Non,
Et Mathieu, je voulais que tu fasses un petit aparté vite fait, vraiment en speed, sur ta vie à Los Angeles. Et genre, tu vois, la différence dans, en termes de production musicale par rapport à ce qui se passe en France, quoi, tu vois.
Bah, celle-là, bah, celle dont on vient de parler, là, ouais, à l'instant. C'est, pour moi, c'est vraiment ça. Quand je suis arrivé à Los Angeles, le premier truc que j'ai fait, j'ai travaillé avec la team de Skrillex sur un artiste de dubstep. Bon, bref.
Ouais.
Et il fallait que je fasse une chanson. C'est un mec qui faisait, avec Skrillex, il faisait un truc de dubstep. Et moi, il fallait que je fasse une chanson avec leur truc très, très électro. Il fallait en faire une chanson. Donc, j'étais là pour faire ça. Et on va au studio, on bosse. Donc, t'imagines, hein, y a toute la team de Skrillex. On fait de la dubstep pendant 8 heures. Il y a des synthés partout, il y a des mecs qui viennent de Hollande, des spécialistes de l'électronique et tout ça. Et puis au bout d'un moment, tous les mecs ils se disent « putain, faut qu'on se casse ». Et je suis « ah bon, pourquoi ?» Bon, je venais, vraiment, ça faisait 2 jours que j'étais à LA. Et je suis « ah bon, pourquoi ?» Et là les mecs ils font « mais mec, il y a Mars Volta qui joue en ville ». Et là j'ai vu toute la team de Skrillex qui allait voir Mars Volta et qui me dit « mais mec, c'est le meilleur groupe de rock, faut aller le voir ». Voilà, et là j'ai compris que j'étais dans un autre état d'esprit. Ouais. Clairement, des mecs qui sont capables de te parler de blues, de death metal, de country, de hip-hop, mais genre, et qui sont capables de le produire. C'est-à-dire, ils connaissent la musique. Quand il y a une nana qui fait de la country qui vient dans le studio, ils sont capables de faire quelque chose parce qu'ils connaissent cette musique.
Ouais.
Aujourd'hui, tu vas dans un studio de, je sais pas moi, même de metal, même chez nous, c'est très compliqué de faire autre chose que ça. On est beaucoup plus dans la spécialité. Mmh. Et d'un côté, je me suis dit, j'ai été longtemps ce genre de mec. J'ai été longtemps le mec qui voulait pas faire de rap, qui faisait que du punk, qui écoutait que du punk et de la techno, qui voulait pas, tu vois. Et en arrivant là-bas, je me suis dit, ok, va falloir vraiment que tu changes, va falloir vraiment que tu t'ouvres. Et j'ai découvert plein de choses. Clairement, ça m'a complètement changé. J'ai compris plein de choses que lui m'expliquait déjà depuis des années, mais je pense que ça précède la maturité aussi. Ouais. Tu vois. Et donc dans la manière de produire, bah c'est hyper intéressant parce qu'après du coup tu te dis, même en faisant du rock, là je vois dans l'album on a produit des titres de rock de la manière dont on produit des titres de rap. Et c'était ultra intéressant.
Et le résultat de cette réflexion, ce sera ce soir sur la scène du 106. Merci d'être venu nous voir, Matt Bastardienne, Stéphanie, Skip The Youth sur la scène du 106.
Ouais, merci à vous.
Très cool. Ce soir, merci. 21h30. Mademoiselle Gloomy, merci, c'était super, bravo.
Merci Manu pour cette première, c'était génial.
On la retrouve sur YouTube, sur la chaîne.
Maintenant, je vais servir des
bières à tout le monde. La voilà. Gloom.
Radio Lomax, c'est fini pour aujourd'hui. Les concerts du 106 cette semaine. Jeudi 28 novembre, concert de Tagada Jones avec les Salles Majesté et Black Bomb A. Vendredi 29 novembre, dans la grande salle, Alpha One avec Infinite et KSA. Et en face, dans le club, Malik Judy avec Pollux. Et enfin, samedi 30 novembre, Izia et Batan Lotto. À la semaine prochaine. A tragedy and agony rare is my family. The shadow may tell that life is my remedy. I wanna be, gotta be with the wrong energy. You are the fake, there is no fantasy. We tend to be.